Merci Adam. Bonjour tout le monde, ça va bien?
Oui.
Vous êtes en forme?
Oui.
J'espère que oui. Ça va être une matinée spéciale. Spéciale pour moi en tout cas, pour plein de gens aussi. Ce matin, on continue notre série dans Luc et avant que Julie nous lise deux passages, on veut juste introduire dans le fond ce qui est en train de se passer. Lorsqu'on arrive dans cette section-là de l'Évangile de Luc, Jésus entre dans son dernier droit. Vous connaissez l'expression à la course, embarqué dans ton dernier droit. Il est en route pour Jérusalem. Il y a un moment où Jésus sait qu'il entre dans la phase finale de sa mission lorsqu'il est venu sur la terre et il doit se rendre à Jérusalem pour mourir sur la croix, littéralement. Et il sait que c'est ça qui se passe. Le passage ouvre avec ça. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Et là, ce que Jésus va faire, c'est que il va envoyer ses disciples. Il envoie ses disciples le précéder dans les villes et villages où il va passer avant de se rendre à Jérusalem pour pouvoir justement annoncer encore une fois la bonne nouvelle avant de se rendre là. Et les disciples vont rencontrer de la résistance, en Samarie entre autres. Et ça va être l'opportunité pour Jésus d'enseigner à ses disciples qu'est-ce que ça veut dire annoncer la bonne nouvelle dans une culture où peut-être que c'est pas bien reçu, peut-être que ce sera pas accepté, et ça va être l'opportunité pour Jésus de leur enseigner que le message qu'ils apportent, c'est pas simplement un message qui se transmet avec des mots, mais qui se vit aussi à travers des valeurs de vie, à travers un témoignage d'amour envers les gens, parce que Jésus est venu non pas pour perdre les hommes, mais pour les sauver. Alors, Julie va nous lire deux extraits importants de ce long passage-là, de 9:51 jusqu'à la fin du chapitre 10. Elle va lire simplement deux extraits qui vont nous permettre d'aller retenir vraiment ces deux leçons-là importantes du passage. On va écouter ensemble la parole de Dieu, mais on va juste dire un mot de prière avant. Père éternel, merci pour cette matinée. Seigneur, c'est une matinée spéciale pour notre famille, c'est une matinée spéciale en Église parce qu'on assiste à des baptêmes. Mais ce matin, ce qu'on veut, Seigneur, c'est que toi, Jésus-Christ, tu sois au centre de tout ce qui se passe ici ce matin. À travers ce passage dans l'Évangile de Luc, on est là pour apprendre quelle était ta mission à toi et celle que tu nous confies à nous, Seigneur, comme chrétiens. Ceux qui ont reçu, Seigneur, ce témoignage que tu es venu apporter de la part de Dieu aux hommes. Je te prie, Père, de disposer nos cœurs à recevoir ce message, d'ouvrir, Seigneur, nos esprits à être réceptifs, à comprendre ce que ta parole est en train de nous communiquer. Et je te prie, Seigneur, ensemble, de nous bénir toute cette belle assemblée. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, on va écouter ensemble la parole de Dieu.
Alors, Luc au chapitre 10, versets 1 à 12, et par la suite, Luc au chapitre 10, versets 25 à 37. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, « Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » Luc au chapitre 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, il ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même.
Merci, Julie. Je vais vous poser une question qui est très, très tendance aujourd'hui. Il y a toutes sortes de livres écrits là-dessus qui nous font réfléchir. Quelle est ta mission sur Terre, à toi, personnellement? Qu'est-ce que tu veux apporter de bon dans ce monde, puis laisser ça comme trace lorsque tu vas quitter ce monde? Notre vie est très, très courte. Et qu'est-ce que toi, tu veux apporter particulièrement? Pourquoi est-ce que tu es sur la Terre? Je ne sais pas si vous réfléchissez dans ces termes-là. À quoi est-ce que tu veux que ta vie serve? Moi, je me suis posé cette question-là la première fois sérieusement, là, en couchant ça par écrit, quand j'avais 19 ans. La manière qu'on réfléchissait, c'est qu'on se disait, si je pouvais déterminer qu'est-ce qui va être écrit sur mon épitaphe lors de mon service funéraire, qu'est-ce que je voudrais qu'on écrive dessus? Quelle est ta mission sur la Terre? Est-ce que tu as une mission? Jésus avait une mission. Jésus avait une mission super claire, limpide à ses yeux. Il savait très bien pourquoi il était sur la terre. Il savait pourquoi il venait. Il savait comment sa mission allait se terminer. Il savait par où il allait passer. Revenez avec moi dans le passage dans Luc, à la toute fin du chapitre 9, verset 51. Des fois, c'est des petits commentaires de l'auteur. Luc ajoute dans son évangile un tout petit commentaire. Il dit au verset 51, « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Je ne sais pas comment il a lu les temps, mais Jésus connaissait sa mission. Et lorsque le moment était venu d'entrer dans le dernier droit de sa course, il a résolu dans son cœur de prendre la direction de Jérusalem. C'est quoi la mission de Jésus? C'est de venir sur la terre, de faire connaître aux hommes l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui allait s'exprimer par son sacrifice à lui sur la croix pour les péchés des hommes. C'est ça sa mission. Et donc on assiste à ce moment-là, à un moment où Jésus est hyper lucide, il connaît sa mission. Puis là, il dit, OK, c'est fini, je ne suis plus dans le temps, je peux juste répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu, que Dieu s'est approché des hommes. Je dois prendre la direction de Jérusalem avec toutes les souffrances que ça implique. Personne ne comprend. Personne n'anticipe ce qui s'en vient. Mais lui connaît sa mission à ce moment-là. Et donc, il prend cette direction-là. Jésus avait une mission, et lorsque le temps était venu pour lui de quitter ce monde, d'être enlevé de ce monde, il a pris cette direction-là. De quoi ça parle? Lorsque le moment fut venu d'être enlevé, où il devait être enlevé du monde, possiblement son ascension après sa résurrection, possiblement sa mort sur la croix, où il allait disparaître aux yeux des hommes, parce qu'il allait mourir puis ressusciter le 3e jour, probablement les 2. Mais certainement que ça passe par la croix. Et donc Jésus sait quelle est sa mission et sait quelle souffrance l'attend. Il va être enlevé des hommes et il prend la direction de Jérusalem et il est prêt à aller souffrir pour ça. Ce matin, on va voir ensemble que Jésus-Christ avait une mission, sauver les hommes par son sacrifice à la croix. Maintenant, dans sa mission à lui et dans le passage qu'on voit ce matin, la mission des chrétiens est clairement donnée aussi. notre mission à nous est d'annoncer et d'incarner son amour pour les hommes, coûte que coûte. Ça, c'est notre mission à nous. Alors, premièrement, notre mission est d'annoncer l'amour de Dieu à un monde sans conscience de Dieu. C'est intéressant, on essaie de comprendre, dans le fond, c'est quoi la trame narrative. Hein? On est en train d'étudier l'évangile de Luc. Luc a écrit ça, il est en train de nous raconter un récit. Et peut-être que vous vous rappellerez, ceux qui êtes avec nous dans la série depuis le début, Jésus a déjà envoyé des disciples en mission. Il a envoyé les 12. Il les a envoyés de ville en village. Donc, ses disciples, les 12 apôtres, étaient appelés à porter ce message-là de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Lorsque Jésus sait que le temps est venu pour lui d'être enlevé du monde, donc de prendre la direction de Jérusalem où il va être arrêté, il va être crucifié, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, OK, on va passer à côté de la Samarie, on peut faire un petit détour par la Samarie. Il envoie des disciples en Samarie. Ensuite de ça, parmi tous les gens qui le suivaient, la foule des disciples qui le suivaient, il en choisit 70 qu'il va, excusez-moi l'expression, il va les dispatcher, il les envoie dans les villages qui vont le précéder, tous les villages où Jésus va devoir passer, aller annoncer la bonne nouvelle, aller préparer le terrain, je m'en viens. Et donc Jésus est en train d'impliquer déjà ses disciples dans cette mission-là, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et tout ça préfigure ce qui va suivre dans le tome 2 de l'Évangile de Luc, qui est le livre des Actes des apôtres. Luc a écrit ces deux livres-là dans le Nouveau Testament, l'Évangile selon Luc et les Actes des apôtres. L'Évangile selon Luc, le récit de la vie de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, les Actes des apôtres. Qu'est-ce que le peuple qui a cru, les chrétiens qui ont cru en lui, comment est-ce qu'ils vont vivre? Comment leur vie va être bouleversée? Comment est-ce qu'ils vont répandre cette bonne nouvelle-là, ce message-là, qui très rapidement, en quelques centaines d'années, va venir littéralement se répandre dans tout l'Empire romain et qui ensuite de ça va... je dirais teinter, définir la vision du monde occidental. C'est très, très, très récent qu'on entre dans un ère post-chrétien, post-moderne, où la vision du monde en Occident n'est pas chrétienne. Et tout ça est le fruit et le résultat du fait que les disciples de Jésus ont compris la mission de Jésus-Christ et ont compris leur mission à eux. Alors, dans ça, ici, dans le passage, j'ai cette image qui m'annonce déjà ce passage dans les Actes des apôtres, au tout début du livre des Actes des apôtres, lorsque Jésus va leur dire, « Et vous serez mes témoins. » Avant son ascension, il leur dit, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La mission de Jésus-Christ était de venir mourir sur la croix pour faire connaître l'amour de Dieu et mourir sur la croix pour les péchés des hommes. La mission des disciples de Jésus-Christ est d'aller annoncer cette bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a accompli. Même si à ce moment-ci, ils ne le saisissent pas entièrement, ils ne savent pas qu'il va mourir sur cette croix. Et ce message-là est apporté dans un monde qui est sans conscience de Dieu. Intéressant, dans le passage ici, il y a une réaction très mauvaise qui se passe avec la Samarie. Si vous n'êtes pas familier, la Samarie était comme un territoire enclavé à l'intérieur du territoire d'Israël, c'était un peuple qui était composite, qui n'était pas seulement des Juifs qui étaient là, mais il y avait beaucoup de non-Juifs qui étaient là aussi, puis il y avait beaucoup d'animosité qui s'était développée entre les Juifs et entre ce peuple-là. Et donc, lorsque Jésus passe par là, il veut annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais quand les gens qui reçoivent ces messagers qui envoyaient d'avance apprennent qu'ils prennent la direction de Jérusalem, ça veut dire que c'est des Juifs, ils veulent absolument rien savoir. Et donc, les vieilles chicanes centenaires qu'il y a entre ces deux peuples-là empêchent le message, la bonne nouvelle, d'entrer. Donc, pourquoi est-ce que je dis que les disciples de Jésus sont appelés à porter ce message-là dans un monde qui est sans conscience de Dieu? C'est parce que notre époque change. Notre époque change. Je vais avoir le privilège de participer à une discussion avec un philosophe, un éminent philosophe montréalais, Charles Taylor, qui a participé à la commission Bouchard-Taylor. Charles Taylor est une commission sur les accommodements raisonnables. Si vous êtes un peu informé, là, ça a quelques années déjà, mais ça a été une commission super importante. Charles Taylor est un philosophe vraiment important sur la pensée sociale, sur le sécularisme. Puis un de ses ouvrages les plus importants, donc c'est un professeur émérite de l'Université McGill à Montréal. de réputation vraiment internationale. Puis un de ses ouvrages les plus importants, c'est « A Secular Age », un âge séculier. Et donc, ce qu'il fait dans cet ouvrage-là, c'est qu'il fait une espèce de survol historique de la pensée occidentale pour voir comment un monde qui avait une vision du monde fondamentalement chrétienne, une société qui s'est bâtie fondamentalement sur des valeurs chrétiennes, des notions de justice sociale, de bien et de mal, des gens qui doivent rendre des comptes pour les choses qu'ils font contre la société, qui vont devoir un jour rendre des comptes à Dieu de ça aussi. Cette conviction qu'on est des êtres non seulement animaux, physiques, mais aussi des êtres sacrés, spirituels, qu'il y a un créateur derrière tout ça qui va nous demander, qui nous demande de vivre selon ses principes, mais aussi de rendre compte de ses principes. Et dans cet ouvrage-là, c'est super intéressant, il parle de cet air séculier du postmodernisme et du post-christianisme. Et comment cette vision-là d'un monde spirituel, d'une réalité où il y a un designer, il y a un créateur, est en train de disparaître. Et au contraire, maintenant, on est à une époque où c'est mal reçu. Ça semble être pour les non-intellectuels de penser qu'on a une dimension spirituelle réelle, qu'il y a un créateur derrière l'univers, que cet univers-là, hyper organisé, structuré, a été designé par quelqu'un. C'est mal reçu, non seulement par l'élite intellectuelle, mais de plus en plus aussi dans la population. Et il fait juste comme analyser ce bouleversement-là profond dans la société. Donc, de plus en plus, pour nous, comme chrétiens, en Occident, puis je dis en Occident parce qu'il faut comprendre qu'on est quand même la minorité de la population mondiale, d'accord? Si vous allez, par exemple, on considérait que c'est l'Occident aussi, mais si vous allez en Amérique latine, on est dans un autre univers complètement, une autre vision du monde. Si vous allez en Afrique, c'est une autre vision du monde. Si vous allez au Moyen-Orient, c'est une autre vision du monde. Si vous allez en Asie, c'est une autre vision du monde aussi. D'accord? Qui est beaucoup moins séculière. Mais pour nous, aujourd'hui, comme chrétiens, la réalité, c'est qu'on est appelé à apporter ce message-là dans cette société qui se définit de plus en plus comme post-chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça? Qu'est-ce que ça représente pour nous? Mais ça veut dire qu'il va y avoir des résistances. Et ce que je trouvais intéressant dans le passage ici ce matin, c'est que les messagers qui sont envoyés en Samarie sont là pour annoncer une bonne nouvelle. À ce moment-ci, les disciples n'ont pas compris qu'est-ce que Jésus s'en va faire à Jérusalem. En fait, ils pensent qu'il va être intronisé comme roi, puis on va tout régler les problèmes, puis qu'on va avoir un chef politique extraordinaire. Ils n'ont aucune idée que lui sait qu'il s'en va mourir sur une croix. Mais ils sont convaincus que c'est le Christ, c'est le Messie, que les Juifs attendaient, que les prophéties avaient annoncé. Ça, ils l'ont saisi, ils ne comprennent pas quelle est sa mission encore. Et donc, pour eux, lorsque les Samaritains refusent de recevoir ce message-là, ils sont complètement scandalisés. Quelle est la réaction de Jacques et de Jean qui ont compris que Jésus a vraiment des pouvoirs incroyables puis que si tu es un messager de Jésus, il y a comme des choses surnaturelles qui peuvent se passer. Ils disent, « OK, Seigneur, on peut s'occuper d'eux, veux-tu? On va commander à la foudre de venir les détruire, comme dans l'Ancien Testament, Sodome et Gomorre. » Je trouvais ça intéressant de lire ça parce que c'est pas simple aujourd'hui dans notre culture d'être chrétien. C'est pas quelque chose, c'est pas très friendly pour les chrétiens comme culture. Tu peux pas comme le dire n'importe où. Tu prends des cours au cégep, si tu défends ça avec un prof qui affirme des choses dans les classes au secondaire de culture religieuse, les professeurs sont plus ou moins instruits sur la Bible. Ils disent quelque chose, ça n'a rien à voir avec la Bible, mais ils disent que c'est ça le christianisme. Tu lèves la main. C'est pas simple. C'est pas évident. Et je pense que c'est une réaction qui se comprend de vouloir se braquer comme chrétien, puis d'être fâché contre cette société-là qui ne comprend pas, qui ne reçoit pas ce message-là. C'est ça la réaction des disciples ici, vous comprenez? Les disciples ici sont fâchés parce que Jésus, après tout, c'est le Messie, puis tu devrais juste être content de l'accueillir. Et c'est un piège pour nous de se braquer dans une attitude, c'est la société qui est contre le christianisme. Oh, mais c'est toi qui as eu cette grâce de connaître qui est Jésus-Christ. Donc, tu n'as pas compris si tu t'attendrais à ce qu'ils le saisissent et que ce soit toujours bien accueilli. Et Jésus va les corriger ici, ses disciples, sévèrement. Voici ce qu'il dit au verset 56. Le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, comme il le fait souvent, il, Il s'appelle le Fils, il se présente comme le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. C'est vrai, on vit à un ère post-chrétien, puis il y a des résistances. Ces résistances-là sont attendues, ça va de soi. Mais notre mandat, c'est pas de se braquer, puis de s'enfermer dans nos petits ghettos à l'intérieur de nos églises, puis le reste de la semaine, vivre comme underground, dans l'anonymat, pas trop se dévoiler. La résistance était déjà là à l'époque. La résistance était là dans l'Empire romain. Il va y avoir des milliers de chrétiens qui vont mourir martyrs au départ, dans des arènes. Puis l'Évangile va prospérer, va s'étendre, puis progressivement va venir vraiment avoir un impact, puis bouleverser toute la culture romaine. À un point tel où, conversion ou non, c'est pas clair, Constantin va se convertir, va devenir chrétien. Est-ce que c'est un move politique? Parce qu'il y avait tellement de chrétiens dans l'Empire que t'étais mieux d'être de leur bord si tu voulais être sûr qu'ils te suivent plutôt qu'être contre eux. C'est vraiment pas clair, honnêtement. Est-ce que c'est par opportunisme politique que Constantin s'est dit chrétien ou non? Pas clair du tout. Mais ça vous donne la mesure d'une culture qui a été bouleversée par le message de l'Évangile lorsque l'empereur, honnêtement ou non, décide de s'afficher comme chrétien. Et pourtant, il y avait eu énormément de résistance. Puis Jésus dit quand même, un peu plus loin dans le passage, on ne l'a pas lu ce matin, mais Luc 10, 13 et suivant, Jésus dit clairement qu'un jour, Dieu va décider que toute chose s'arrête. Dieu va décider que cette terre-là, telle qu'elle est, s'arrête et chaque homme va comparaître devant Dieu. Et donc, si j'ai décidé de mon vivant de rejeter complètement ce message-là de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, je vais rendre des comptes à Dieu. Puis Jésus est très sévère. Malheur à toi, Chorazine, en parlant d'une des villes en Israël qui avait rejeté le Messie. Malheur à toi parce que tu as rejeté. Et donc, il va y avoir un temps où tout homme va se présenter devant Dieu et va devoir rendre compte de sa vie. C'est très, très clair dans les Écritures. Mais pour nous, maintenant, notre mandat, c'est d'aimer une société qui de plus en plus perd la conscience de Dieu, se déchristianise même dans sa vision du monde, qui fait que ce message-là est plus difficile à apporter. Notre rôle à nous, c'est d'aimer, parce que le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et c'est ce que Jésus va développer après avec l'illustration du bon samaritain. Notre rôle à nous, c'est d'aimer. Puis Jésus va aller très, très loin pour démontrer aux disciples que leur rôle, c'est d'aimer, mais on y vient dans quelques instants. Juste quelques autres leçons qu'il y a dans ce passage-là. Un disciple va venir vers Jésus, un homme va venir vers Jésus au verset 57. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Puis Luc est en train de nous aider à saisir, qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus? La réponse de Jésus, c'est ceci. « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Si tu veux me suivre, tu vas abandonner beaucoup de choses. Parce que tu vas te transformer en pèlerin sur la terre. L'homme qui vit sans conviction qu'il y a une vie après la mort, l'homme qui vit sans conviction qu'on est un être spirituel fondamentalement, ne vit pas comme un pèlerin sur la terre. C'est quelqu'un qui s'installe. Your best life now, c'est maintenant, ici. C'est ici que je vais tirer le meilleur de cette vie. Après, il n'y a rien. Donc, je m'installe, j'en tire le plus que je peux. Dans les visions chrétiennes du monde, cette vie-là, c'est un soupir qui passe très, très rapidement. Je vais la vivre au meilleur de ce que je peux avec les valeurs les plus belles. Puis je vais jouir de ça au maximum. Mais dans mon esprit à moi, le chronomètre qui est parti, c'est pas pour la fin de ma vie. C'est pour la fin de ma vie sur terre. Je suis un pèlerin sur terre. Et cette idée-là revient un tout petit peu plus loin lorsque Jésus envoie les 70. Et puis il leur dit, « Vous ne prenez rien, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. Vous avez une mission, concentrez-vous sur votre mission. » Je vous dirais que cette exhortation-là est d'autant plus importante dans un ère post-chrétien. Si vous venez à l'Évangile, si vous venez à Jésus-Christ, si vous adoptez le christianisme en vous disant, je vais aller puiser dans le christianisme des règles de vie qui vont me permettre d'avoir des bons principes, de vivre, d'établir ma petite famille, ma petite vie, on va avoir des enfants, on va s'installer, je vais être un homme honnête, je vais prospérer, ça va être génial. Tu es en train d'installer ton palais sur terre, mon copain. C'est pas ça le christianisme. C'est un pèlerin sur terre. Tu voyages léger. Il y avait une citation dans le Seigneur des Anneaux. Voyageons léger. Allons chasser de l'orque. Voyagez léger. Voyagez léger. Dieu vous bénit, Dieu vous fait prospérer, ne vous attachez pas à ça. Dieu vous bénit, il vous donne des talents, vous réussissez, vous avez une belle carrière, c'est génial, il y a plein d'applaudissements, des promotions au travail. C'est bien, ça va vous donner l'occasion de rayonner, ça va vous donner l'occasion de briller pour Christ un peu plus. Voyagez léger, laissez pas ces choses-là s'attacher à votre cœur. Ne vous installez pas sur la terre, on est des pèlerins, on a une mission, cette mission-là, est prioritaire sur tout le reste. Et on a un message à apporter. On a un message à apporter. Voici ce que Jésus leur dit de communiquer lorsqu'ils ne sont pas bien reçus. On trouve ça au verset 11. « Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Mais sachez cependant ceci, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » À une époque où les gens ont l'impression que Dieu n'existe pas parce qu'ils ont l'impression que Dieu est loin, c'est toi comme chrétien, à travers ce message de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, c'est toi comme chrétien, lorsque tu vas de ville en ville, lorsque tu vas d'ami en ami, de collègue en collègue, qui commence à t'interroger sur ta foi, c'est toi comme chrétien qui est là pour leur dire « Non, non, dis-moi pas que Dieu est loin. Dieu est proche, je ne suis pas Dieu. » Mais je t'apporte le message de Dieu. Je t'apporte l'amour de Dieu. Dieu s'est approché de toi. Dieu s'est approché de toi. Dis-moi pas que Dieu est loin. Dieu s'est approché de toi. Si tu veux, on va aller voir ensemble. On va aller voir ça ensemble dans les Écritures. C'est le temps des fêtes qui s'en vient. La naissance de Christ va être célébrée. C'est en train de perdre tout son sens. À travers cette fête-là, Dieu s'approche encore des Québécois. Parce qu'on peut leur rappeler d'où elle vient cette fête-là. C'est quoi cette fête-là? C'est la naissance du Sauveur. Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et c'est ça notre message, c'est ça qu'on veut apporter. Maintenant, les disciples étaient tentés de dire, « OK, j'ai un message à donner. J'ai un message à donner, je vais le crier à tue-tête, je vais aller n'importe où, je vais dire, Jésus vous aime, il est mort sur la croix pour vos péchés. Alléluia! Si les gens ne veulent rien savoir, Dieu les frappera. » Jésus leur dit, « Vous n'avez absolument rien compris. » Tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un que Dieu l'aime, si toi, dans ton cœur, tu n'es pas en train de l'aimer. Tu n'as pas le droit de le faire. Tais-toi. De grâce, tais-toi. Ferme-la. Ce n'est pas un bon témoignage. Je te dis, tu ne ressembles pas à Jésus pantoute. Tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu n'es pas capable d'aimer la personne, dis rien. Affiche-toi pas comme un chrétien. Convertis-toi, deviens chrétien. Après ça, tu parleras. Et Jésus vraiment les reprend parce qu'il leur dit, non, vous n'avez pas le droit de réagir avec ce rejet-là devant les hommes. Le Fils de l'homme est venu pour sauver, il n'est pas venu pour perdre. Et là, ce que Jésus fait après, il leur montre que notre mission, c'est non seulement d'annoncer l'amour de Dieu, mais c'est de manifester l'amour de Dieu. Et il le fait à travers cette parabole avec le bon Samaritain. Jésus leur dit, si une ville vous rejette, vous voulez que Dieu la détruise, vous n'avez rien compris. C'est vraiment intéressant parce que le rejet qu'ils ont vécu, c'était en Samarie. La parabole qu'il va raconter, c'est avec un Samaritain. Et celui qui va être un bon prochain pour son prochain, ça va être le Samaritain. Parce que notre mission, c'est d'annoncer l'amour de Dieu, mais c'est de manifester l'amour de Dieu aussi. Et si vous dissociez les deux parce que vous dites « Non, 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 Yannick, tu n'as pas compris, là. Tu es en train d'obscurcir le message de l'Évangile. Je suis désolé, je vais me battre bec et ongle avec toi. Je suis désolé, c'est toi qui obscurcis le message de l'Évangile. Si l'amour de Dieu ne transparaît pas à travers ton style de vie, ton comportement au travail, tes actions, puis que tu as l'air d'un bigot de religieux comme les religieux dans le texte. Dans ce récit-là, les religieux ont l'air de quoi? Ah, des gens qui ont toute la saine doctrine, eux autres, ils ont compris. Les Lévites, ils sont là, ils ont compris, ils ont le message de Dieu. Est-ce que celui qui a été attaqué par des brigands pouvait comprendre l'amour de Dieu à travers ce brillant message de ces hommes-là, d'après vous? Non, parce que c'était des gens religieux qui disaient qu'ils avaient le message de Dieu, mais qui ne le vivaient pas, qui ne portaient pas dans leur cœur l'amour de Dieu. Et donc, Jésus va raconter cette histoire Il va prendre ce Samaritain que les disciples avaient eu envie de voir Dieu détruire. « Ah, Seigneur, tu veux-tu, on va faire descendre la foudre, on va détruire ça, ces villes-là, d'impies. » Non, non, vous ne savez pas, là-dedans, il y a des gens qui ont mieux compris l'amour de Dieu que vous, là, OK? Et donc, on trouve au verset 35-37 de Luc 10, « Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui. Est-ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Fait que cet homme-là qui, culturellement, n'avait pas à prendre soin d'un juif parce que c'était un samaritain, c'est lui qui a manifesté l'amour de Dieu. C'est pas les religieux, c'est pas les bien-pensants, c'est pas ceux qui avaient le message. Lui, il a vécu à ce moment-là ce message-là, en prenant soin. En prenant soin, coûte que coûte, avec son argent, avec son temps. Et Jésus pose la question à la fin, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. » Je peux vous assurer qu'il répondait contre son gré à ce moment-ci. « Va et toi, fais de même. » La mission de Jésus, c'était de venir annoncer puis accomplir l'amour de Dieu pour les hommes en mourant sur la croix, pour les péchés des hommes. C'est ça la mission de Jésus. À travers son sacrifice sur la croix pour nos péchés, il annonçait que Dieu n'a pas abandonné les hommes, il s'approchait des hommes. Ce message-là, c'est un message d'amour. Jésus est sur la croix, pendu au bois, et il prie pour les gens qui le maudissent en face. Il prie pour ceux qui ne comprennent pas. Il prie pour cette culture qui le rejette totalement. Il prie en disant, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Puis Jésus envoie ses disciples, de village en village, puis leur dit, « Allez annoncer la bonne nouvelle. Dieu s'est approché des hommes dans la personne de son Fils. » Et il nous envoie, nous, annoncer cette bonne nouvelle-là. Ce message-là, ce n'est pas simplement une doctrine, un message sur Dieu, des faits historiques passés qui peuvent venir bouleverser ta vie. Ce message-là se porte à travers un style de vie qui ressemble à Dieu. Un style de vie qui ressemble à celui qui est mort sur la croix pour moi. Un style de vie qui fait que je vais aimer coûte que coûte. C'est qui les gens autour de toi qui actuellement, si j'allais les voir puis je leur disais, est-ce que ce chrétien-là a manifesté l'amour de Dieu envers toi. Lesquels diraient, pfff, t'es un hypocrite. Je sais c'est quoi vous autres les chrétiens. Je connais votre patente. Alléluia, j'aime Jésus. Vous aimez entre vous, puis vous jugez tout le monde. Vous jugez la culture, vous rejetez tout le monde. C'est qui cette personne-là? Si j'allais la voir, elle dirait, t'es pas un bon prochain. Ce gars-là, c'est pas un bon prochain pour moi. Qu'est-ce que tu peux faire cette semaine? Qu'est-ce que tu peux faire dans le temps des fêtes pour changer ça? Pour manifester l'amour de Dieu envers cette personne-là. On arrive dans la période des fêtes, on le dit à chaque fois, il y a tellement de solitude dans la période des fêtes, c'est complètement fou. Il y a des gens qui ont perdu des proches il y a quelques années dans le temps des fêtes, puis qui vivent et revivent année après année. Il y en a d'autres qui ont traversé des divorces pendant l'année, puis qui vont être seuls pendant les fêtes. Il y en a qui ont émigré, qui sont partis de loin, puis leur famille est loin, puis ils vont vivre de la solitude. Ah, ils vont peut-être être en famille, mais ce n'est pas la fête. C'est le temps. C'est vraiment le temps, concrètement. C'est le temps de donner. C'est le temps d'être généreux. C'est le temps de démontrer cet amour-là. Puis il y a un prix à ça. Quand est-ce que c'est trop? Jamais. Coûte que coûte. Jamais trop. Parce que celui qu'on suit, celui qu'on imite, c'est celui qui est mort sur la croix pour nous. Jésus avait une mission. Il connaissait super bien sa mission. Lorsque le moment était venu pour lui de prendre la direction de la croix à Jérusalem, il a résolu dans son cœur. Il a pris la résolution de se tourner vers Jérusalem puis d'aller vers sa mort, vers les moments les plus terribles de son existence. Est-ce que tu connais ta mission si tu es chrétien? Est-ce que tu embrasses cette mission-là? Est-ce que tu comprends que ta mission, ce n'est pas juste une doctrine, ce n'est pas juste un message? C'est quelque chose qui se traduit à travers un style de vie parce que tu peux obscurcir complètement le message si ton style de vie n'est pas cohérent, ne fonctionne pas avec ça. Quand quand on a élaboré un peu notre vision, comment on veut grandir, comment on veut grandir comme assemblée, au début de l'année, on a dit, voici ce qu'on rêve. On rêve d'être 500 disciples de Jésus-Christ qui font des disciples. 500 chrétiens qui s'investissent un peu partout autour d'eux pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu et qu'ils l'incarnent à travers leur style de vie, à travers des petits groupes en mission, à travers des banques alimentaires, à travers du service, puis juste être disponible pour pouvoir annoncer ce message-là quand les opportunités sont là. À travers la dernière année, l'Assemblée, on a grandi de 20 % 20 % 300 adultes réguliers les dimanches matins, d'accord? Une centaine d'enfants. Notre vision, c'est 500 disciples qui s'investissent pour faire des disciples. Est-ce que tu as embrassé la mission que Dieu t'a donnée? Parce que si Jésus a dit à ses disciples, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre », ça veut dire que cette mission-là, il l'a donnée à tous les chrétiens. Tous les chrétiens sont appelés à être des témoins de Jésus-Christ en annonçant ce message-là, puis en l'incarnant à travers un style de vie. Puis quand on serait bon, quand l'Église grandirait, c'est trippant, là, on célébrerait des baptêmes, ce sera pas tellement long. 13 baptêmes à peu près cette année, là, si on prend avec ceux qui vont être au début janvier, puis l'Assemblée grandit de 20 %. Si on était bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Si ça marchait, cette patente-là, wow, on est bon! C'est vraiment, vraiment extraordinaire comment Jésus enseigne. La mission d'un chrétien, c'est jamais son identité. Ton identité, c'est pas ta mission. C'est deux choses séparées. C'est parce que je sais qui je suis que je connais ma mission. Mais ma mission, c'est pas mon identité. C'est vraiment beau dans le passage. Si vous revenez un petit peu plus tôt dans Luc 10, au verset 20, Jésus leur dit, ils reviennent, les 70... Ça a été incroyable, le message a été bien reçu, tout ça, ils sont impressionnés, super excités. Ils pourraient se prendre au sérieux, tu sais, ils sont rendus comme des petits Jésus. Wouh, on est hot! Jésus leur dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Notre mission, ce n'est pas notre identité. C'est parce que je connais mon identité que je saisis quelle est ma mission. Mon identité, c'est que j'ai cru en Jésus-Christ. Et parce que j'ai cru en Jésus-Christ par la foi, je me suis fait baptiser au nom de Jésus-Christ, j'ai placé ma foi dans son sacrifice, parce que j'ai cru en Jésus-Christ, je suis maintenant chrétien, avec cette ferme conviction qui est un acte de foi, mais que mon nom, à moi, Yannick, est inscrit dans les cieux, et que ma vie sur terre est un pèlerinage, qui a une dimension spirituelle à mon être et que je vais aller retrouver Dieu. Ça, c'est mon identité. Ça, c'est mon identité. Jésus continue en disant, au verset 21, Luc nous dit, « Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Plus que jamais, en 2015, dans un air post-chrétien, c'est vrai que ça prend une foi d'enfant quelque part pour croire en Jésus-Christ. C'est vrai. Et le message le plus important de ce passage-là, c'est quelle est ton identité? Est-ce que ton nom est inscrit dans les cieux? Est-ce que tu as compris qui est Jésus-Christ? C'est plus difficile aujourd'hui de le saisir parce que notre société est post-chrétienne. Il y a très peu de gens dans la société qui se rappellent des histoires de Jésus, alors que le Québec célébrait ça à tous les ans. Cette culture chrétienne, cette histoire du fondement de la société occidentale est en train de se perdre. Est-ce que tu connais les racines de ta société? Est-ce que tu as lu les Écritures? Est-ce que tu connais qui est Jésus-Christ? Parce qu'il y a encore plein de valeurs dans notre société qui sont en fait le fruit de ce que Jésus a enseigné. Plein encore de traces du christianisme fondamentalement qui sont là. Est-ce que tu connais ça pour connaître ton identité et connaître Jésus-Christ personnellement? Ce matin, c'est spécial parce que Jésus a donné deux symboles aux chrétiens. Des fois, on a l'impression que le christianisme, c'est les églises où est-ce qu'il y a des bibelots, puis un paquet d'affaires, puis un paquet de rituels, puis le pasteur ne devrait pas être habillé comme ça, puis je devrais avoir une toge. Tout ce que j'ai d'un prêtre, c'est ça ici. Fait que, on a l'impression que c'est ça le christianisme. T'sais, c'est de l'encens, puis des lampions, puis des chandelles, puis des bâtiments extraordinaires. On a manqué notre coup un peu ici. Au design, on pourrait faire mieux. Mais en réalité, le christianisme, c'est la foi dans une personne qui est Jésus-Christ. Puis moi, je dirais que le christianisme, c'est deux symboles. Deux symboles. Celui qui va être célébré tantôt, le baptême, où un individu fait le pas de foi de s'afficher publiquement pour sa foi en Jésus-Christ, et en passant par les eaux du baptême, en étant immergé dans l'eau, illustre sa mort avec Jésus-Christ et sa résurrection avec Jésus-Christ. C'est simplement un symbole qui représente quelque chose qui se passe dans le cœur de l'individu, dans sa relation avec Dieu. Mais avant ça, juste à la veille de sa mort, Jésus avait donné un autre symbole. Au moment du dernier repas, et des traces encore du christianisme, si on peut avoir l'image de la toile de Léonard de Vinci, des traces du christianisme à l'intérieur de l'Occident, cette toile de Léonard de Vinci, où tu as le Christ qui est en train de célébrer dans quelque chose qui ne ressemble pas vraiment à un setting. Okay? C'est Léonard de Vinci qui fait une relecture contemporaine pour son époque. Il n'était pas assis comme ça à une table, je peux vous le garantir. Ce n'était pas dans la culture du tout. Mais vous avez Jésus qui est là avec ses disciples qui sont là. Et ils sont en train de prendre le dernier repas de la Pâque que Jésus va prendre avec ses disciples. Et Jésus, au moment où prennent le dernier repas de la Pâque, les Juifs faisaient ça maintenant depuis des centaines d'années, pour se rappeler ce moment où Dieu les avait fait sortir d'Égypte, les avait libérés de l'esclavage en Égypte. On trouve ça au début de la Bible dans l'Ancien Testament. Jésus les enseigne et leur dit, ce repas de la Pâque, ce sacrifice d'un agneau où on mangeait de l'agneau à ce moment-là, puis il y avait un agneau qui avait été sacrifié, préfigurait un autre sacrifice plus grand qui allait venir. C'était juste une image des choses à venir, du sacrifice que Jésus s'apprête à vivre, parce que là, on est à la veille de son arrestation, de sa mise à mort. Et donc, au moment de ce dernier repas, un certain moment pendant le repas, ce que Jésus fait, c'est qu'il prend du pain, puis il brise le pain, puis il passe à ses disciples. Puis il dit, ce pain-là représente mon corps qui va être brisé sur la croix. Prenez-en, mangez-en. Et chaque fois que vous allez vous réunir, faites-le en mémoire de ce que je vais avoir vécu sur la croix. Ils n'ont aucune idée, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Après ça, Jésus prend une coupe de vin, puis distribue cette coupe-là, prend une gorgée, la distribue aux disciples. Il dit, cette coupe-là, c'est la coupe qui représente mon sang qui va être versé sur la croix. Et ce matin, on a le privilège de voir les deux symboles ensemble. Dans quelques instants, les musiciens vont s'avancer, puis les placeurs vont s'avancer, puis vont distribuer. On simplifie ça. Aujourd'hui, on ne se passe pas une coupe, toute la gang. On vous préserve de ça. Mais juste une assiette avec un plateau, avec des petits pains, puis avec des coupes, le jus de raisin dedans. Et donc, si vous avez saisi la bonne nouvelle de Jésus-Christ, si vous êtes de confession de foi chrétienne, vous avez saisi cela. Plus encore, si vous avez décidé de passer par les eaux du baptême, vous êtes affiché dans votre foi. Sentez-vous bien à l'aise de prendre les éléments. Si vous n'êtes pas là, personne ne va vous juger ici. C'est juste un privilège pour nous, laissez passer les éléments. Mais pour nous, c'est un mémorial de la mission de Jésus-Christ. Ce qui va se passer lorsqu'il va se rendre jusqu'à Jérusalem et de son sacrifice pour nous. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut t'adorer ce matin. On veut élever ton nom dans nos cœurs. On veut te dire, Seigneur, qu'on a compris ta mission. On a compris pourquoi tu es venu sur la terre. On a compris pourquoi tu as pris cette direction de Jérusalem. On a compris que ce n'était pas un accident ta mort sur la croix. Ce n'est pas un accident de l'histoire. C'était ta mission d'aller mourir sur cette croix, Seigneur. Et Seigneur, j'ai reconnu que j'étais un homme, une créature merveilleuse de Dieu, mais en même temps un être déchu, un pécheur, qui a des mensonges, des hypocrisies, toutes sortes de fourberies en lui-même, un manque d'intégrité profond qui me rend absolument incapable d'être à ton image, Seigneur, véritablement. J'ai reconnu que j'étais un être brisé et que j'avais besoin de ton sacrifice sur la croix pour que Dieu me pardonne et qu'il fasse de moi une créature nouvelle. Merci, Seigneur Jésus, pour la croix. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice. Amen.